Chapitre 25. Piqué au vif, Le Glaive et Titi se dirigèrent vers le couloir. « Fais gaffe à lui !» ordonna le chef de groupe en lançant un regard dur à Charcot tandis qu'il sortait. Serge les entraîna quelques mètres à l'écart. À plus de minuit, le bâtiment était désert. Il parla pourtant à voix basse. « Voilà le topo. Nerveusement, Catherine Escrémieux est à bout, à deux doigts de nous claquer dans les pattes. Quand elle a découvert la photo de sa fille nue au milieu de celle des autres enfants, elle s'est effondrée. Avec Einstein, on est du même avis. Elle est sincère, elle n'est au courant de rien. Sa fille ne lui a jamais parlé d'éventuels attouchements ou autres. À l'heure actuelle, son cerveau ne tourne plus rond. Je crois qu'elle est en train de prendre conscience que son mari est un pédo et qu'il a abusé de sa propre gosse. C'est cohérent, ça peut expliquer le silence de la gamine à l'époque, approuva Le Glaive. La mère n'a rien vu ou s'est mis des œillères, c'est un schéma assez classique. Ce salopard a lâché quelque chose? Rien pour l'instant, mais il est impliqué, j'en suis presque sûr. Il est fuyant, il a peur. Si on le travaille encore un peu, possible qu'il cède. Mais il sait se contrôler, c'est un coriace. Serge acquiesça avec un sourire en coin. J'ai ce qu'il vous faut pour le faire flancher. Accrochez votre ceinture. Catherine Escrémieux nous a avoué qu'ils avaient été cambriolés il y a deux mois, alors qu'ils étaient sortis pour une partie de golf. Aucune serrure n'avait été forcée, mais le bureau de notre Gus avait été retourné jusqu'au moindre livre de la bibliothèque, le moindre tiroir. Putain, lâcha Titi. Mais vous savez pas la meilleure? Cette ordure a réussi à convaincre sa femme de ne pas porter plainte, prétextant que c'était inutile de mêler la police à ça. Quand il a su mardi dernier qu'ils allaient devoir déposer au 36, il a demandé à son épouse de ne pas évoquer ce cambriolage. Vous pensez comme moi pour l'origine des photos? Thierry Brossard n'avait qu'une envie, se jeter de nouveau dans l'arène. Bien joué, les gars, lança-t-il en faisant demi-tour et en pressant le pas. André Escrémieux n'avait plus d'échappatoire et allait se mettre à table. Le chef de groupe jubilait. Il le tenait. Pourtant, quand il arriva dans la salle d'interrogatoire, il eut l'impression d'être dans un film d'horreur. Leur suspect convulsait au sol, de l'écume blanche aux lèvres. Charcot était paniqué, il se démenait pour le placer en position latérale de sécurité. Titi essaya de maintenir les jambes qui heurtaient avec violence le pied du bureau. « Bordel, Charcot, mais qu'est-ce qui se passe ? Il vient de tomber. Il a voulu que je lui redonne les clichés. J'ai cru qu'il allait craquer. Mais pendant que je les attrapais, il a avalé un truc. Ça a duré une fraction de seconde. » Titi remarqua le tube en verre et le bouchon qui avait roulé près de la poubelle. Il restait des petits grains noirs à l'intérieur. « C'est pas vrai. Fallait pas le lâcher d'une semelle, merde ! Je savais pas. Il avait caché le tube dans le col de son pull, je... » Le Glaive les rejoignit. Il s'agenouilla, tenta de le faire vomir, et eut l'index et le majeur mordus jusqu'au sang. Il hurla, puis se jeta sur le téléphone pour appeler les secours. Titi suait désormais à grosses gouttes. Il fixa Charcot droit dans les yeux et parla entre ses dents. « Il n'y a que moi qui suis sorti d'ici. Seulement moi, t'entends ?» Escrémieux continuait à se tordre en poussant des grognements. Serge finit par débarquer, lui aussi. « Qu'est-ce que... Le Glaive et Charcot étaient ensemble quand ça s'est produit ?» répéta le chef de groupe à toute vitesse. « Il n'y a que moi qui suis sorti pour discuter avec toi au sujet du cambriolage. » Amandier repéra le tube. « Fais chier !»« Souvenez-vous, j'ai fait la palpation en règle à leur domicile, juste avant qu'ils montent en voiture. La femme était déjà dans son propre véhicule avec Charcot. Elle n'a rien vu, c'est bon ?»« Oui, tu l'as fait à ce moment-là, » répondit Serge. « Oui, tu as tout vérifié de la tête aux pieds. » D'autres visages apparurent dans l'embrasure, dont celui d'un commissaire, et Titi se mura alors dans le silence. Charcot ne comprenait pas. Il eut envie de crier que ce n'était pas vrai, qu'il n'y avait pas eu de palpation, qu'il s'était retrouvé seul avec le suspect et que tout ça était sa faute. Mais ses pupilles croisèrent une demi-seconde celle du Glaive, et il comprit que leur procédurier pensait comme Titi. Il fallait qu'il la ferme. Les 13 minutes qui suivirent furent un pur cauchemar. Quand, alertée par l'agitation, Catherine Escrémieux découvrit la scène, elle s'effondra littéralement. Puis les secouristes arrivèrent, essoufflés, et firent tout leur possible pour tirer d'affaire Escrémieux. Ils parvinrent à le ramener à la vie après un premier arrêt du cœur. Titi, lui, profita de la cacophonie ambiante pour échanger avec ses coéquipiers. Ils devaient tous s'accorder sur la version des faits. « Un homme va peut-être mourir à cause de moi », dit Charcot alors que lui et son chef se tenaient en retrait. « Je ne peux pas débuter ma carrière sur un mensonge. Je suis prêt à assumer ce qui s'est passé. Il n'est pas question que de toi. On ne laisse pas un dernier de groupe en solo, surtout dans une affaire si grave. » Notre responsabilité à tous est engagée. Je me fiche de tes états d'âme. Obéis aux ordres. On fait front ensemble. On protège la famille. Il l'abandonna là et alla rejoindre les autres. André Escrémieux mourut à 1h12, le mercredi 18 décembre, dans le bureau du Glaive, au 5e étage du 36, quai des Orfèvres, d'un second arrêt cardiaque. 3 heures après, 2 types de l'inspection générale de la police nationale débarquaient.